Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce mini-pod consacré à une série du passé, un Maxovision en beaucoup plus grand, si vous préférez, un Maxovision en mieux, j'ai envie de dire. Et donc, bien évidemment, hein, une vieille série, donc ça implique Max, c'est lui notre
Super.
préposé à la vieille série.
Super, j'ai l'impression qu'à dire vieille série, il veut dire vieux Max.
Je n'oserais pas.
Bon, d'accord.
Donc bonsoir Max, ou bonjour Max.
Et ben, hello à toi.
Merci bien. Sinon, nous avons deux groupies de la série dont on va parler aujourd'hui. Delphine et Céline, qui sont fans de John Crichton, le héros de Farscape.
Non, c'est pas vrai.
C'est
Céline, elle
toi
est
la
pas fan.
groupie Max, c'est ça?
Non, Céline, elle est fan de Radiohead.
Non, pas plus que ça. Je les apprécie tous les deux, l'un autant que l'autre, on va dire.
Et vous
Mais
dites pas
salut.
bonjour les filles.
Si, salut.
Bah si, mais tu m'as coupé la parole, voilà.
Non, moi
J'oserais
j'attendais
pas.
que Max
Ouais.
termine, en fait.
Qui se prépose pour faire le texte du générique de Farscape?
Céline.
Logiquement, ça devrait être Max.
Bah ouais, quand même,
Ouais,
hein.
c'est lui le garçon.
Et oui, puis c'est Maxovision, donc tu connais tout.
Non, c'est Céline qui a gagné.
Et nous. Et moi, je suis là pour acquiescer, pour dire ouais, j'aimais bien. Je m'appelle John Crichton, je suis astronaute. Une vague d'ondes électromagnétique est passée, j'étais aspirée par un vortex. Maintenant, je suis perdue dans un coin reculé de l'univers, à bord d'un vaisseau vivant habité par toutes sortes de créatures extraterrestres bizarres. Au secours, aidez-moi, vous m'entendez? Il y a sûrement quelqu'un de quelque part qui m'entend. Je suis poursuivie par un commandant militaire psychopathe qui sait tout ce que je ne sais pas. Je cherche juste un moyen de rentrer chez moi. Nanana.
J'ai particulièrement aimé la fin.
Merci, merci.
Toujours. Céline, la fin, c'est son truc. Non? T'as pas un petit
Je
creux
n'ai
là,
pas
non?
trois estomacs, je précise.
Mais est-ce que cette présentation résume bien la série?
La première saison?
Ouais.
Bah,
Voilà,
c'est pour ça qu'il change le truc.
Voilà.
Il t'explique le début, quoi.
Bah, c'est normal de commencer par le début.
Oui, voilà.
Non? Non?
Disons que voilà, première saison, elle met en place tout l'univers et puis elle a un fil rouge assez particulier qui ne sera pas repris par la suite, qui est comment dire, la pourchasse de Grace. Voilà, c'est un type un peu chelou qui a décidé que Crichton, c'était son ennemi juré. Voilà.
C'est un commandant militaire psychopathe.
Mais on a oublié deux détails
Catchy.
importants. Que Max nous dise c'était quoi le titre VO de cette série.
Farscape.
Voilà, une série télé australienne de 88 épisodes créée par Rockne S. O'Bannon. Bon, pareil qu'il faut dire Rockne. Et donc qui a été diffusée de 99 à 2003 sur Sci-Fi Channel et de 2000 à à partir de 2000 sur Série Club quoi. Et donc après il y a une téléfilm pour conclure plus ou moins tout cela, mais nous y reviendrons ultérieurement sur ce téléfilm puisque là donc vous voulez parler de cette première saison qui place tout l'univers auprès du téléspectateur comme Céline voulait le dire. Et est-ce que j'ai envie oui.
Sinon, je conteste le fait qu'elle est que 50% australienne. Tout le monde dit qu'elle est... voilà. Juste...
Ouais, c'est une coproduction.
Ouais, c'est une coprode, voilà. Oui. C'est comme les
Elle
Power
est...
Rangers, ils sont tournés en Nouvelle-Zélande.
Voilà. Elle est tournée en Australie, mais les fonds sont...
J'aurais pu
Elle
dire Xena, par exemple, ça aurait été mieux, mais non, j'ai sorti les Power Rangers.
est... On voit tes références, Nico, cherche pas.
Voilà. La compagnie australienne s'est tournée en Australie, mais les fonds sont US. Ouais.
Voilà, il donne les sous-sous.
Ouais.
Et donc, non, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que, bah moi, je vais te dire, j'ai regardé les 5 premiers épisodes, j'ai vraiment pas réussi à accrocher à l'univers. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez accroché à cet univers en cette première saison?
J'ai sauté la première saison. La première fois.
D'accord. Bien joué, Max. Non, mais j'ai réessayé au début des autres saisons, hein, c'était toujours non. Bon. Non.
Je pense que j'ai eu la même chance que Max en fait. Enfin, moi je suis tombée dessus totalement par hasard et je crois que c'était la saison 2 en fait. Et j'ai beaucoup aimé les épisodes que j'ai vus donc du coup j'ai décidé de la recommencer. Non, mais je sais que la plupart des personnes qui ont commencé par la saison 1, ils ont eu beaucoup de mal à s'accrocher.
Bah ouais, non, mais j'étais là, je fais, c'est quoi ce truc? Enfin, c'était pas mauvais dans le truc, mais j'arrivais pas à voir le sens du machin. Ok, le mec, il est perdu, ok, avec des autres extraterrestres, bon, ils sont un peu tous bizarres, mais je sais pas, ça me semblait cliché, quoi, dans le truc, dans l'idée.
Oh non, au contraire, c'est tout le contraire, il n'y a jamais eu de cliché dans...
Pour moi, c'est totalement du délire, au contraire, je pas comment ça
John
Clayton,
c'est le super-héros, Irene, c'est bah, ça, son love interest, side machin, enfin, je sais pas, ça reste assez...
Ben bah, non, ça prouve que t'as vu que 5 épisodes, pour la résumer comme ça, en fait.
Bah oui, mais voilà.
Non, mais après, sur la base, oui, c'est assez classique. Mais sur la façon de raconter, sur les histoires, c'est vraiment une série qui a fait des choses différentes.
C'était voilà, et puis...
Développe la pensée, Max.
Vas-y, Max.
Hein, quoi?
Bah,
en quoi c'est des choses différentes, c'est ça que tu...
Sur le... Je dis, sur la base, oui, voilà, il y a un héros, il y a le love interest, et aux côtés, t'as tous les gens qui tournent autour, mais c'est surtout... C'est au niveau de la réalisation des scénarios, il y a quand même un côté décalé qu'on voyait rarement avant. Enfin, je sais pas, il y a à chaque fois ils apportaient quelque chose qu'on voyait pas souvent, quoi.
D'original.
Oula.
Enfin, c'est quand même une des premières.
Pas, voilà. Si c'est Delphine qui vient à ta rescousse, il y a un problème. Non, mais...
Et je sais pas comment dire aussi.
Ah. Bah, d'innovant, d'original, enfin, de nouveau, quoi.
Et il met en quoi c'est innovant, enfin.
Bah...
Une série spatiale.
C'est une série spatiale pas comme les autres, quand même. C'est aussi une comédie en même temps, donc, enfin, c'est un délire total.
Stargate Universe, c'est comique aussi, hein.
Non.
Déjà, au niveau de la réalisation, c'est assez original. Que ce soit pour les personnages ou les décors. Et puis bon, les plans sont très très mouvants, ça fait vraiment ambiance vaisseau bizarre. Et ensuite, oui, les personnages sont complètement barrés à chaque fois. Hein. Alors ils correspondent en partie aux archétypes, mais d'autres parties c'est pas du tout ça, quoi. C'est des anti-héros pour la plupart. Et au niveau des références, références utilisées,
Un exemple. Non, mais
je suis d'accord sur l'ambiance. Il y a quand même quelque chose de particulier du fait que donc ils sont sur un bord d'un vaisseau, mais le vaisseau est vivant.
Oui.
Ah, moi je peux t'en sortir des séries antérieures avec des vaisseaux vivants. Enfin, c'est pas.
Non. Vas-y, dis.
Bah, c'est Lex, je crois. Oui, ça doit être Lex qui doit avoir aussi un vaisseau vivant, il me semble.
C'est vraiment super intéressant.
Oui, enfin, c'est pas... oui.
C'est un personnage à part entière.
90 aussi.
Ouais, mais est-ce que c'est un personnage à part entière? Parce que pour le coup, Moya, c'est un personnage à part entière.
J'ai deux épisodes de Lex, alors...
Voilà, mais là, le truc, c'est quand même que elle, pour le coup, elle a vraiment des intrigues, quoi. C'est pas un vaisseau qui est vivant juste pour être vivant.
Lex, série de 97. Oui. Allemande, britannique, canadienne, mettant en scène une bande de renégats voyageant à bord du Lex, un vaisseau spatial vivant qui, équipé de la force destructrice la plus puissante dans les deux univers, est capable de détruire des planètes entières. L'équipage, le moins hétéroclite, essaye d'échapper à sa divine nécrose, un esprit multiple habitant un corps humain et régnant sur la ligue des 20 000 planètes de l'univers de lumière.
Oula. Comment ça se fait que j'ai jamais vu celle-là?
Moi non plus, c'est bizarre.
J'étais sur Canal, à une époque où j'étais abonné à Canal.
Ouais.
Wow.
J'ai dû voir un épisode, mais je crois que c'était encore plus chic que la première saison de The Farscape.
Oui, non, mais je peux te rassurer, hein, j'ai pas été plus au bout que Farscape non plus. Hein, c'est...
Voilà. Non, mais c'est vraiment vivant, vu que même à un moment donné, dans la saison, elle tombe enceinte, le vaisseau tombe enceinte.
Voilà. Ouais.
Et donc c'est un peu ce côté-là que vous voulez souligner par séparer des personnages, dire bah merde, un vaisseau qui tombe enceinte.
Non mais parce qu'à l'intérieur aussi, il y a tout à l'intérieur, c'est vraiment on sent le côté vivant, quoi.
Oui. Du vaisseau. Ouais.
C'est vraiment important.
Ah mais le côté organique des vaisseaux, bah, je sais pas, tu pourrais aussi citer Invasion Planète Terre, même si pour le coup ils sont pas conscients mais ça reste aussi des êtres.
Mais là, c'est différent. Je veux dire, dans le sens où vraiment, c'est pas qu'un vaisseau, tu te dis, c'est pas grave, il sera remplaçable. Là, c'est vraiment, il ferait tout pour l'aider, quoi.
Voilà, bon, elle a ses humeurs aussi. Bon, si tu veux un exemple, tu as, par exemple, au niveau des personnages. Ouais, alors Stark, oui. Oui, lui, il est complètement fou, hein. ensuite, Tazan aussi, qui est une plante. Elle est prêtresse, voleuse en même temps.
Elle vient, c'est pas une plante.
Bah si, c'est une plante. Oui, c'est un végétal.
C'est une plante en réalité. Ouais.
Voilà, bon, ben, pour reprendre l'exemple de Max, Stark est... Ouais, il est un petit peu fou. Et en même temps, c'est un personnage très très profond,
un
quoi.
Un petit peu oh, pardon.
Tu viens de choquer Delphine.
Non.
Ouais, mais c'est bien gentil de dire que c'est un personnage un peu fou, mais... concrètement, un exemple.
Mais c'est parce que t'as aussi, voilà, oui, t'as aussi des épisodes complètement barrés.
C'est parce que c'est dans des actions. Tu le vois dans sa façon d'agir, dans la façon de réagir par rapport aux autres. C'est difficile à expliquer comme ça.
Il est maniaque, paranoïaque, un petit peu schizophrène, tout petit peu, hein. il a quoi? Il a un milliard de consciences dans sa tête, quelque chose comme ça. Enfin, il.
C'est par rapport au fait aux méchants. Il y a vraiment entre le Scorpius et John, il y a vraiment une relation qui différente par rapport aux autres séries. Déjà le fait que Scorpius se retrouve dans la tête de
oui
voilà
et que y ait Harvey quoi.
Oui, il y a une relation très intéressante qui s'installe entre Harvey et John, qui finit par réussir quelque peu à contrôler l'environnement dans lequel il va retrouver son petit parasite. Et oui, ça donne des scènes géniales, du coup.
Et le côté, donc, le fait de voir Scorpius, Harvey, avec sa tête et une chemise hawaïenne.
Ouais, le costume de lapin était pas mal aussi.
C'était voilà. Ça aussi, les épisodes complètement délirants où il sait pas ce qui est réel, etc. Et tu vois des trucs de malade. L'autre avec ses talons aiguilles, il crée son talon aiguille. Enfin, c'est mémorable, quoi. C'est, je sais pas, c'est une ambiance, c'est vraiment une ambiance, un décalage total qui fait que,
et
que tu rentres dedans, quoi.
Je vous écoute et je vous demande, mais avec quelle drogue ça fonctionne mieux de regarder Farscape pour les mecs?
Aucune, hein, y a pas besoin de drogue, hein, c'est bon, hein, y a tout, c'est tout fourni, hein, t'as le pack complet, là.
C'est-à-dire qu'ils ont usé tous les stocks avant d'écrire les épisodes, c'est ça?
Oui. Et pendant aussi, je pense.
Ah, clairement, oui. Y a certains épisodes vraiment qui sont très pipi caca, hein. Avec le duo John Rachel, c'est bon, là ils y vont à fond.
Ouais, c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux. Hein. Ils arrivent à faire de bons épisodes subtils.
Ouais, il y a certains épisodes, ça m'a fait penser au slit-in de Doctor Who quand même. Hein. C'était. On aurait pu s'en passer.
Oui. Voilà, bon, non, mais moi je trouve que déjà, bon. Mais au fil des épisodes, je trouve que ça c'est ce côté-là. C'est peut-être qu'ils se tiennent aussi dans le. Enfin. Ils ont pas mal du mal à se trouver dans les premiers épisodes, à faire l'équilibre entre le trop et pas assez.
Oui.
C'est vrai que je trouve que pour moi, les saisons 3 et 4 sont bien meilleures, mieux équilibrées au niveau du scénario, ça tient mieux et voilà, c'est mieux rythmé.
Ouais, je dirais que dans la première saison, quand même, ça s'explique un petit peu cette ambiance légèrement terre à terre.
Ils ont fait des trucs.
Ça et puis le fait aussi qu'il Crichton il découvre tout un univers avec des personnages très différents les uns des autres et donc des personnages avec des relations à leur corps pas forcément exactement identiques à ce qui est socialement autorisé sur Terre quoi. Voilà, il y a un grand décalage qui s'installe entre les habitudes des uns et des autres donc
oui,
c'est un humain banal.
Comme disait tout à l'heure, je pense que l'intrigue, enfin le fil rouge, là, le fait que Chris essaie de venger la mort de son frère, ça c'est pas vraiment super intéressant comme fil rouge, quoi.
Oui, ça permet surtout de découvrir les pacificateurs finalement. C'est une façon de présenter les personnages, de présenter l'univers dans lequel ils évoluent et présenter l'ennemi du moment, quoi.
Ça, après, moi, je pense que c'est quand même mieux passé parce que Kress reste un bon personnage au final. Donc,
oui, mais justement, il a fallu qu'il s'allie à.
Oui. il a fallu qu'il renonce à se venger et qu'il les rejoigne finalement. Parce que c'est vrai que ça, c'était un peu lourd la poursuite. En plus, tu te dis, c'est bon quoi. Il a, en plus, c'était même pas fait exprès. Il l'a pas tué volontairement, son frère quoi.
Ouais, puis il y a l'arbitre.
De rester là-dessus, quoi.
Voilà, l'arbitre pouvait le voir directement sur l'écran quoi.
Mm-hmm.
Ouais. C'était non, mais voilà, pour moi, la saison. Enfin, vraiment, le meilleur dans ce cas, parce que c'est démarre quand. Donc avec. Les deux John quoi quand les quand ils se séparent donc avec Moya d'un côté et Talyn de l'autre.
Tu dis ça parce que tout le monde meurt à un moment donné.
Non
c'est,
mais bon.
C'est la saison où ils meurent tous en fait.
Mmh. Ah, faut bien ils sont trop.
Oui. Moi je crois que mon moment préféré c'est à partir du moment où Shyanna arrive en fait. Mais...
Moi j'ai cru que t'allais dire à partir du moment où John et Erin sont sur un bateau mais.
Ouais.
Ça fait un peu tard quand même dans la série.
Oui, un peu quand même.
Non, c'est vrai que oui, la première saison est assez longue à démarrer, mais tu as quand même la fin de la saison 1 qui devient quand même plus rythmée, je dirais, avec le nouveau fil rouge, avec Scorpius qui découvre que John a un secret dans sa tête.
Ouais. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé dingue, c'est que finalement, t'as quand même un fil rouge qui court après jusqu'au bout de la série, quoi. Et qui est quand même assez bien développé, quoi.
Vraiment, enfin, ou ça reste un truc qui revient une fois de temps en temps.
Ah non, non, c'est vraiment, ça court sur vraiment toute la série. Pour le coup, c'est pas genre 5 minutes dans un épisode. Hein.
Voilà, déjà t'as le fait qu'ils aient réussi à faire en sorte que Scorpius puisse être là dans tous les épisodes, donc au travers d'Harvey qui est dans la tête de Clayton. Ça permet d'avoir des interactions dans tous les épisodes entre ces deux personnages et de les voir parler de la technologie des vortex, d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Parce que bon, Scorpius dit à Crichton, ouais, t'as des trucs dans la tête, dis-moi ce que c'est. Lui, il en a aucune idée. Hein. Il comprend pas ce qui se passe. Bon, donc oui, il y a ça. Et puis c'est après progressivement pour des guerres politiques finalement et ouais. Ça mène au final à la guerre entre les pacificateurs et les Scarans, ce qui est à la fois l'aboutissement et le début de toute cette histoire
alors qu'au début c'était juste des prisonniers qui cherchaient à trouver un lieu pour être enfin tranquilles quoi.
Voilà,
ils se retrouvent mêlés à tout ça sans vraiment le vouloir
et sans vraiment savoir de quoi ils retournent
et encore une fois à cause d'un Américain. Qui fout la merde.
Ah, pas totalement, hein, parce que... Bon, un petit peu, mais...
Oh, mais pas totalement. Bah, c'est quand même le héros du truc, quoi. Enfin, on se poigne quelque part, on fait la... Enfin, ça finit en guerre. Faut pas que les Américains aillent dans l'espace, en fait.
Non, non, mais en fait, la guerre, c'est elle une guerre déjà... dont ils ne sont pas au courant, mais oui, elle est déjà quelque part programmée dès le départ. C'est quelque chose...
Elle coule déjà, et puis bon, les Scarans, les pacificateurs, ils sont pas ennemis depuis 5 minutes, tu vois. Ça a toujours été deux espèces qui ne s'aimaient pas.
Voilà, même si on découvre les Scarans très tard dans la série...
Hein ? Ils savent pas ce que c'est, les pacificateurs... C'est des humains et les Scarans, c'est des bizarres.
C'est pas George Clooney le pacificateur, non?
Pacificateur, si, si. C'est... Par exemple, Irene et Cress sont des pacificateurs.
C'est pas exactement le même type de pacificateur.
Et celui dont on parlait tout à l'heure, Scorpius, c'est mi-Scaran, mi-pacificateur, si je me trompe pas.
Oui. Ouais. Alors, disons qu'on se pose la question tout au long de la série, pourquoi est-ce qu'il s'appelle pacificateur? Donc, l'espèce en elle-même, c'est des sébacéens, quoi. Et ce surnom de pacificateur, on en découvre la signification à la fin.
À la fin de la série ou dans le téléfilm?
Dans le téléfilm, qui est également la fin de la série.
Qui s'appelle juste la guerre des pacificateurs, donc je suppose.
Oui, The Peacekeeper Wars.
Yeah. Mais c'était Max qui devait le faire.
Désolé.
De quoi ? T'as quoi ?
Petite VO. Du téléfilm. Ah.
Non, je sais pas.
Peacekeeper Wars.
Je l'ai dit, quoi.
Les pacificateurs font la guerre, et puis...
Oui, bon, The Peacekeeper Wars,
voilà. Voilà, t'es content, on l'aura tous les trois dit, comme ça.
Wars.
Et la façon dont il a de dire peace...
Ouais, écoutons...
Quoi ? Ce qu'il y a encore ?
Bah, les toilettes sont au fond à droite.
Oh, Nico !
Oh là là !
Bref. Bah quoi, je me mets au niveau de la série, non ?
Non.
Non.
Non, non, elle a su évoluer.
Non, ah, et c'est ça le pire, c'est que je pense que si t'avais commencé peut-être par la saison 2 et que bon, après t'étais revenu en arrière et que t'avais regardé la série, je suis sûre que finalement elle t'aurait plu, quoi.
Donc, même dans le visionnage, c'est conceptuel comme série, quoi. Il faut commencer par la 2, après la regarder la 1 et. Même
non, mais moi.
C'est moins tordu, quoi.
Attends, moi, tu vois, j'ai pas commencé directement au pilote. J'ai commencé vers l'épisode 6 ou 7. Et c'est quand ça a été rediffusé que j'ai vu les premiers épisodes. Mais c'est vrai que les premiers épisodes, du coup, ils font un peu tarte, hein.
Oui.
Mm-hmm. Ils font cheap.
Tu es cheap.
Mais une fois que t'as vu des épisodes d'après, tu sais que ça devient mieux derrière. Donc tu peux les supporter.
J'ai vu
quoi.
Des épisodes d'après, j'ai essayé sur la saison première de la 2 et de la 3.
Non. C'est ta mauvaise foi qui agit, tu as fait non. Je ne verrai rien d'autre.
Hein?
Oui, voilà. Parce que t'es de très mauvaise foi quand il s'agit d'une série que l'on te vend, survend et.
Non, mais c'était même pas. Mais c'était même avant que vous me la vendiez, survendiez. Ou alors c'est peut-être parce que c'était série club, donc c'était en VF.
Non, c'était série club, donc c'était en VF avec une plage VO.
Non,
parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la VM, il n'y avait pas encore la version multilingue.
Et
il y avait Série Club faisait un prime time suivi vers 23h d'une plage VO pour toutes les séries qui diffusaient en prime time.
J'ai vu Farscape en VF. Hein.
J'ai vu les deux.
J'ai vu les deux aussi.
J'alternais VF et Vos Affaires.
J'ai vu les deux aussi.
Tu regardes une série en VF, ça me...
Et ça m'a pas empêché de l'aimer, hein, de l'avoir en VF en partie. Donc...
Après, je suis peut-être pas...
Le téléfilm
autour de la série, hein, j'ai le droit, non? Enfin, si c'était quand même un ton qui était grand public, la série aurait jamais été annulée, faute d'audience.
Elle pourrait être annulée, faute d'audience, hein.
C'est la raison donnée par Sci-Fi.
Oui, mais non,
il n'y avait pas suffisamment d'audience par rapport au coût de la série. Voilà,
c'est... Non, non, elle était en... Oui, beaucoup, mais bon, c'est pas la... Les audiences n'étaient pas si mauvaises, c'est juste qu'elle était en... Elle était en compétition avec une autre et ils ont pris la moins chère des deux.
Oui, et puis bon, le problème, c'est qu'elle n'a pas non plus été aidée par les magnifiques programmations de Sci-Fi, hein, parce qu'il faut dire qu'il y a 10 ans, au moment où elle a été annulée, ils étaient déjà très forts en programmation et hiatus de 6 mois et des conneries comme ça.
Oui, ils en étaient déjà à hésiter entre produire des séries et faire de la télé-réalité, hein, donc...
Donc, mais voilà, enfin, je veux dire, ça reste quand même une série, j'ai envie de dire, de niche, quoi, ça. C'est pas la série spatiale la plus populaire du monde non plus.
C'est difficile d'être populaire en le sens où elle était, par exemple, en France, diffusée que sur le câble, déjà.
Oui, mais,
pour les Star Trek, par exemple, c'est...
Oui, mais, qu'est-ce que t'appelles, dans ce cas-là, toutes les séries de Sci-Fi sont une niche. Enfin, toutes les... Voilà.
Oui.
Toutes les
ouais.
Elle faisait elle enfin le téléfilm par exemple, il a fait 2 millions. C'est autant que ce que faisait Battlestar, hein.
Non mais Battlestar c'est normal que ça fasse pas d'audience.
Oui. Mais je sais pas,
donc en fait Farscape c'est l'inverse. Il faut regarder les 3 et 4 là où Battlestar, il faut pas y toucher, quoi.
Voilà. Même Stargate faisait pas plus d'audience que ça, hein.
Ah si, sur M6.
Ouais, non, mais voilà, en France. Parce qu'elle était diffusée ailleurs que sur le câble. Parce que Série Club l'a diffusée en premier et qu'ensuite M6 a quand même décidé de la diffuser également. Mais sinon, si Stargate était resté sur Série Club...
Ouais, mais quelque part, je veux dire, elle aurait pu être récupérée par la TNT à ses débuts. Quoi. Ça n'a même pas été le cas. En 2006, ouais, ça va. Elle n'était pas trop vieille non plus quand la TNT a été lancée. Pourtant, elle n'a pas été récupérée.
Ben, comme beaucoup de séries de science-fiction.
Il y a eu Battlestar quand même sur NRJ 12.
Ils ont pas été jusqu'au bout.
Battlestar Galactica, le truc où sont multi-rediffusés le pilote sur M6 chaque année.
Bah, oui.
Sans aller plus loin.
Ah ben oui, mais problème.
C'est la diffusion du nouvel an.
On a quand même un gros problème avec la science-fiction, hein, en France aussi. Ouais.
Ah, c'est culturel. Enfin, je veux dire, il y en a. Et puis c'est la faute à Star Trek, enfin à TF1. Qui a programmé Star Trek plus de 10 ans après sa diffusion aux États-Unis, donc même quand ça arrivait en France, c'était hyper kitsch. Et donc il y a ce côté hyper kitsch de la SF pour le téléspectateur, enfin dans l'idée globale, et ça va pas être aidé par Farscape et ses marionnettes, quoi.
Pour Farscape, pour sa diffusion française au moment de la TMT, il me semble que c'est le moment où Sci-Fi France a vu le jour et a décidé de la diffuser elle-même. Alors c'est peut-être lié.
Ah oui, mais non.
Elle a peut-être empêché la diffusion hein, sur TNT.
Normalement, c'est des droits différents hein, pour le RT ouais. Et le.
Mais bon, je pense qu'ils savaient que la première saison elle est trop kitsch. Voilà, elle est trop kitsch et ça peut pas marcher quoi. Ça oui. Serait... À la rigueur, si maintenant je voyais, le créneau, ce serait sur France 4.
Mmh. Ouais, ouais. Tu bah, diras, oui, ils ont.
Si Doctor Who a marché. Hein.
Voilà, enfin, Doctor Who, ça a quand même eu super du mal au début. Hein.
Ah oui, justement, ils ont insisté.
Oui, voilà, ils se sont accrochés.
Mais c'est pas gagné qu'ils insistent fortement sur d'autres séries. Je crois que c'est Charlie Jade, par exemple, qui n'a pas été rediffusé, il me semble.
Oh, mais Charlie Jade, il y a combien d'épisodes attends.
Pourtant, c'est un truc policier science-fiction, quoi.
Oh là là, oui, mais non. T'as vu Charlie Jade
ouais, j'avais dû voir la moitié de la première saison.
Ah ouais.
C'est long et bizarre. Hein.
Suivre, c'est chaud. C'est quand même super chaud ouais, à suivre. Enfin, c'est vraiment très bizarre.
Donc, avec les trois mondes.
Oui.
Mais ouais, mais bon, il y a un côté un peu policier tout ça. Ça serait plus. C'est de la science-fiction terrestre, donc ça serait peut-être plus facile à vendre au public, je pense. Mais bon, je sais pas.
Non, j'y crois pas. Non. Non. Je trouve ça moins grand public que Stargate, par exemple.
Ouais, mais Stargate, enfin, c'était calibré pour du grand public aussi. Hein.
C'était puis,
il y avait un film avant. Hein. Il y a eu un film qui a cartonné au cinéma.
C'était le carton pâte de la science-fiction.
Vous savez qu'on a dévié quand même.
Un peu.
Non, mais dans ce cas-là, enfin, pour le public, faut prendre les séries de sci-fi maintenant, quoi. Warehouse, tout ça, Eureka.
Ça reste encore de la niche. Enfin, je veux dire, c'est. Puis c'est pas. Je suis pas persuadé que ça attire le public familial et ça a un peu tendance à faire fuir le public fan de science-fiction, donc de vraie science-fiction pure.
Non, mais écoute, Sci-Fi, oui, Eureka est diffusé par Energy 12 et puis. Quoi ?
Oui, en même temps que Battlestar, c'est ça ?
Non ! Ah, on le diffuse, hein ! Bon, maintenant.
Non, c'est Psych, hein. C'est... Jack Carter, c'est pas Gus, hein.
Non, Psych, c'est sur NT1.
Non ?
En plus, si.
Si.
En plus, si. Eureka, j'ai jamais vu Eureka sur Energy 12.
T'as jamais vu Eureka ? C'est bizarre, ça.
Non, sur Énergie 12. Il faut écouter la phrase, madame.
Je vais voir quand est-ce qu'elle a été diffusée pour la dernière fois.
Si, elle a été diffusée, mais c'était le samedi. Mais elle a... je ne sais pas si c'était une autre que vous.
Oui, c'est le samedi soir, mais bon, c'est le même créneau que sur Série Club. Donc, c'est qu'elle fonctionne bien, là.
Vas-y, go sur Énergie 12. Hein.
Après,
non, c'est sur
après, c'est le problème de toute façon de... C'est NT1 ?
Oui.
Merde. Bon. Je suis en train de vérifier sur le guide d'épisodes que j'ai moi-même fait.
Et comme disait Delphine, on s'éloigne très très loin.
Bon.
Ouais. Tu vas tout refaire ton guide ?
Donc. non, mais je dois le savoir à un moment donné, hein, j'imagine, j'ai juste un peu bugué.
Mais pour en revenir à Farscape, c'est quand même une série qui n'est pas du tout vendable sur la TNT. Comme le dirait Max.
C'est pas assez
Eureka, War of Sorting, Haven, c'est ça.
La saison 1, comme dit Max, a très mal vieilli, mais après, pour le reste...
C'est quand même 13 ans au compteur. Hein, dire. Encore heureux, parce que finalement, c'est à base de marionnettes et un peu ce côté-là. Enfin, je veux même pas dire dans 13 ans, c'est 2009, mais ça va être horrible à regarder. Hein. Oui. Ça sera incroyable.
Il y a un autre problème aussi, avec Farscape, elle a un problème de DVD.
Non, un tiers de saison à 90€, c'est totalement normal.
Disons que moi, j'ai réussi à rentabiliser les DVD, mais il faut du temps pour ça. Donc,
comment t'as fait pour rentabiliser les DVD ?
Je les ai regardés plusieurs fois.
Elle les loue, en fait. Je
les regarde, en fait.
Elle fait partie de la club Farscape, c'est elle qui a acheté les DVD, et après, elle les loue à chaque membre
en fait,
du club.
Voilà, c'est moi qui les ai vendus, hein, en fait. C'est pour ça que c'est aussi cher.
Non, mais maintenant, ça va, t'arrives à trouver la saison 1 complète pour 60€.
Mais normalement, il y a deux ans, aux USA, ils ont sorti une version compacte. Donc, normalement, malheureusement, elle est jamais sortie en France.
Et est-ce qu'ils ont déjà sorti tout en France ?
Oui.
Oui.
Mais
en version, il y a eu deux épisodes par CD.
C'était des coffrets, c'était des tiers de saison, quoi.
Ça, c'est un coffret
de 80 ou 90.
Au départ, ils ont sorti ça en volume, mais après, ils ont fini par faire des intégrales. Mais les intégrales, elles sont juste immenses, quoi.
T'as des intégrales complètes et tu as des demi-intégrales, en fait.
Mais de toute façon, c'est pas une question, ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. S'ils ont vendu deux exemplaires, c'est le bout du monde, quoi.
C'est vrai que si tu peux le payer en plusieurs fois, c'est quand même l'idéal.
Oui, ça parce que si c'est la version complète, la toute première version qui est sortie, la version complète, elle doit valoir 280 euros, un truc comme ça. Hein.
Ouais.
Non, mais ça coûtait la peau du cul, quoi. Même Star Trek, ça revenait moins cher. Et pourtant, Star Trek, au début des DVD, la saison, elle coûtait 100 euros.
Ouais, mais ah, ça, oui, c'est complète. C'est une petite boîte qui les produit et c'est le même problème avec Andromeda, finalement. Hein.
Et finalement, ils avaient le choix. Ils se sont dit, bon, c'est un truc de niche, il n'y aura pas grand monde qui va l'acheter, mais c'est des fans hardcore, donc ils sont prêts à payer super cher, quoi.
Bon, mais déjà...
Je pense là-dessus, plus que dire, on va le mettre à bas prix, dans l'espoir que peut-être les gens, par hasard, se disent, tiens, je ne sais pas ce que c'est, je vais le prendre à tout hasard.
Non, alors que si baisser les prix, je pense qu'il y aurait plus de monde qui l'achèterait.
Je pense que même pour le rentabiliser, vu que ce n'est pas une grosse boîte et qu'il n'y a pas un gros tirage, je pense qu'ils n'avaient pas le choix, hein. Mais en tout cas, c'est des DVD de qualité, c'est déjà ça.
Par contre, autant la première saison est cheap, autant sur la fin, c'est bien mieux et le téléfilm est vraiment très très bien fait. Je pense que le téléfilm est bien mieux fait que toutes les trucs de science-fiction qui sont faits actuellement.
En fait, pour le téléfilm, ils avaient pris tous les explosifs disponibles en Australie, il me semble, quelque chose comme ça, quoi.
Mais
après coup, donc ouais.
Globalement, toute la SF d'il y a 10 ans est mieux que la SF qui est faite aujourd'hui, visuellement parlant. Hein.
Bah, elle est même mieux que les dramas d'aujourd'hui, quoi.
Disons que même Parfait est mieux que le plan là. Battlestar.
Mm. Oui, non, mais ça c'est normal. Enfin.
Mais je parle graphiquement,
pas visuellement. Graphiquement.
Voilà. Bah, c'est un peu comme.
Pas dessin animé non plus.
C'est un peu comme Babylon 5 qui, sur certains plans, est un peu vieillotte visuellement, et puis pour d'autres, elle était à l'avant-garde et elle a été rarement dépassée.
Hein. Toutes les séries des années 90, hein, c'était le cas. Enfin, Star Trek Voyager a des super plans de l'espace et tout. Après, le problème, c'est que ça vieillit dans le compartiment en eux-mêmes, puisque leur top de la technologie, c'est une tablette iPad, quoi. Enfin, c'est l'équivalent d'une tablette iPad aujourd'hui. C'est ça, donc dans 700 ans, ça sera encore... 300 ans, pas 700, mais ça sera comme ça, quoi. Enfin, tu te dis, merde...
quand tu vois l'évolution des effets spéciaux, tu peux te dire que l'évolution technologique en général...
Mais c'est peut-être l'avantage aussi de Farscape, c'est ce que je disais, quoi. C'est le fait que ça soit des marionnettes. Ça vieillit beaucoup moins que les effets 3D, quoi.
Il n'y a qu'une marionnette.
Oui.
Oui, non, mais.
Non, il y en a deux.
Par contre, là où
c'est. Mais t'as un décor, quoi, pour le vaisseau, c'est pas un fond vert, comme voilà, c'était dans.
T'as un vrai décor, et là où c'est très doué, c'est au niveau des maquillages.
Oui.
Il y a certains maquillages qui sont très très bien faits.
Oui, c'était aussi quand même fait par la boîte des Muppets, hein, donc. Je connaissais un peu en prothèses et autres marionnettes et compagnie. Donc.
Par contre, je voudrais mettre un bémol par rapport à ce que tu dis au niveau des effets spéciaux actuels. Je dirais que les effets spéciaux du premier Star Wars étaient plus avancés que les effets spéciaux actuels. Voilà. C'est...
Du premier Star Wars, celui de 77 ou l'épisode 1
77.
Donc l'épisode 4, un nouvel espoir.
Oui. Bah ouais, écoute... Hein.
Non, tu veux pas dire ça, franchement.
Si.
Quand t'achètes
des maquettes, j'utilisais des trucs en carton et
des collectors, tu sais, avec celui avec la version remasterisée et celui avec la version d'origine. Mm-hmm. Quand tu parles de l'espace, le 77, ça t'arrache les yeux. Hein. C'est...
Oui, mais ça, c'est parce que c'est à cause des caméras.
Non.
Quand tu vois la planète rouge en fond, tu dis aveugle sur la version 77.
La plupart des effets spéciaux, c'était pas forcément des effets les plus recherchés et compagnie, mais c'était des trucs efficaces. Alors que maintenant, on te sort les fonds verts.
On va arriver à Céline, elle va te dire que c'était mieux dans le Star Trek original, où le décor de la planète était un drap peint.
Non, peut-être pas.
Non, mais.
Tu sais, entre le fond vert et le drap peint, tu sais, je vois pas vraiment beaucoup de différence.
Disons, t'as déjà pas l'impression que les personnages flottent. C'est un avantage du drap par rapport au fond vert.
Alors ça, c'était peut-être un effet de la planète elle-même.
Mais donc, voilà. Ça fait aujourd'hui 10 ans qu'elle a été annulée, du moins que l'annulation a été prononcée. Non, même je crois qu'elle avait été diffusée en été 2002. Je n'ai plus la date de fin exacte dans la tête.
Mais de quoi de la série ou du... C'est 2002,
l'annulation.
Et 2004.
Ouais, non, mais je te parle de la série en elle-même. Voilà, elle a beau avoir 10 ans, elle reste aussi bien visuellement que scénaristiquement à voir, quoi. C'est ça.
Oui.
Oui. Pour faire dire.
Voilà. Bon, par contre, elle a quelques cliffhangers très durs psychologiquement. Faut pas être cardiaque, surtout le dernier.
Oui.
Bah,
très efficace.
En apprenant, j'étais tombé dessus sur Série Club. J'ai fait tiens, qu'est-ce qu'ils foutent sur un bateau ? On dirait en plus qu'ils sont sur Terre.
Non, sur mer.
Oui, là pour le coup, ils étaient sur mer. Tiens, c'est bizarre cette série.
C'est bizarre, c'est dans un bateau en pleine campagne là.
J'aurais peut-être dû regarder des épisodes pour mieux comprendre, mais non, tant pis.
Oui, c'est vrai que commencer par la fin, c'est dur. Non, mais c'est vrai que voilà, Sci-Fi n'a pas été très cool. Ils ont décidé d'annuler la série alors que le dernier épisode avait déjà été tourné. Heureusement, ils sont revenus sur leur décision. Hein. Et ils ont offert aux fans un téléfilm, ce qu'ils ne font pas avec toutes les séries, même quand ils le promettent. Quand ils le promettent, n'est-ce pas?
En même temps, vu la fin de la saison 4, je pense
plan,
que
on l'a eu.
Tout le monde a balancé sa télé. Hein, donc...
Non, mais ils nous avaient promis The Plan, hein, on l'a eu.
Ouais.
Oui, mais... Les
ouais, mais ça, c'était pas nécessaire, puis c'était pas... Enfin, c'était pas...
Non, moi, alors moi, j'ai eu la chance systématiquement, inconsciemment, j'oubliais de regarder ou d'enregistrer le dernier épisode. Donc je l'ai vu la veille de la sortie de la première partie de The Peacekeeper Wars. Et évidemment, j'ai regardé The Peacekeeper Wars juste après, quoi.
Ouais, tandis que moi, il n'y avait pas encore de téléfilm prévu quand j'ai vu le final de la série, donc...
On venait de m'installer la télé.
J'avais juste envie, c'est de prendre la télé et de l'acheter par la fenêtre, quoi.
Ouais, moi non plus, j'ai pas dû trop attendre. J'ai longtemps fait un blocage sur
la série.
Space Opera. Non, sur le Space Opera.
Sur le genre, carrément.
Oui, oui.
Finalement, Farscape, c'est un peu comme c'est un peu surnatural, quoi, pour toi. Tu t'y es mis vachement tard à la série.
Bah, disons que je me suis mis vachement tard. Elle était déjà finie quand je me suis mis, mais j'ai rattrapé un peu comme Céline, quoi. Finalement, je l'ai fini avant de, j'ai pu voir le téléfilm pile poil au moment où c'était diffusé, quoi. Mm-hmm. Au USA.
C'était en octobre. Ou en novembre.
C'était en 2004. Une très belle année, puisqu'on a fait quart de finaliste à l'Euro de foot.
Oui, c'est comme ça que je m'en souviens.
Oui, ça, c'est un bon moyen mémotechnique. Hein,
tout à fait.
Bon, alors, par contre,
17 et 18 octobre, Céline.
Ah, c'est grave, je voudrais bien tester Lex. J'ai envie de tester. Non, c'est malin.
Fais gaffe, parce que des trucs totalement un peu inconnus dans le genre, je peux t'en sortir d'autres. Hein.
Ouais, mais est-ce que c'est sorti en DVD?
Lex, oui.
Ouais, mais en DVD français.
Ah non, mais je sais pas si c'est diffusé en France. C'est diffusé en France, Lex.
Les deux premières saisons ont été, je crois qu'ils ont laissé tomber, quoi. Non, mais si, en fait, c'était, c'était à cause de l'actrice, ça, comment elle s'appelait, la Xenia Seberg, que j'avais regardée.
Wow.
Mais si, Attends, c'est la femme du clown, quoi.
Ouais, pas super. Ça me démotive direct. Hein.
Mais quoi?
Et Michael McMagnus, il a un rapport avec Michaela?
Je ne sais pas. C'est peut-être la même personne 10 ans plus tard.
Oh, merde. Voilà.
Bon, bah ok.
Non, mais c'est Donc Max, il va se mettre à Lex. Hein, donc on fera Lex en mini-pod l'été prochain.
Il faut d'abord que quelqu'un me offre les DVD, hein, parce que ça va être chaud pour eux. Je pense qu'il faut retrouver les épisodes.
Ouais, non. Ils sont sortis. Je veux dire, ils sont encore zone 1, non? Peut-être en zone 2 anglais, comme c'est une coproduction anglaise.
Oui, je sais pas. De toute façon, ça pourra pas être pire que le plan.
Ah mais non, mais rien peut être pire que le plan.
Parce que quand même, le plan, on m'a offert en Blu-ray. Et je peux te dire qu'au bout de 10 minutes, j'ai arrêté tellement ça me fait mal aux yeux.
T'as tes bons amis, hein. Non, moi, je l'ai quand même en DVD, c'est tout.
Moi aussi. Moi, je te
dis... Et heureusement, je l'ai faut que je coupe ça.
Je crois que je l'ai aussi.
C'est là que je me suis dit, je vais peut-être pas m'offrir d'autres séries en Blu-ray. Ça fait trop peur.
Non,
c'était quoi, visuellement que ça te faisait peur ou scénariste?
Ah ouais, non, visuellement ça fait mal.
Je pense pas que Blu-ray change grand chose au scénario quand même.
Oui, je pense pas.
Bah si, ça te fait ressortir encore plus ces trucs. Non mais moi je voudrais la saison 4 de Battlestar en Blu-ray, rien que pour la scène où Adama repeint sa chambre en blanc.
Mais nous ne sommes pas en train de parler de Battlestar Galactica dans ce mini-pod spécial.
Mais moi, si quelqu'un veut m'offrir les Farscape en Blu-ray, je sais pas si ça existe pas. Donc...
Je sais pas si ça existe pas.
4000 euros la saison peut-être.
Faudrait me les offrir aussi. Hein.
Je sais pas si ça existe pas. Il nous a quand même sorti
ça. Non, Céline, t'as dit que tu les avais achetés, toi.
Non, en Blu-ray, j'aurais jamais les moyens de me les payer. Hein. À mon avis, ça coûte plus cher que.
Ouais, mais au moins, t'as déjà les DVD, c'est déjà un progrès.
T'as qu'à te faire sponsoriser par le Qatar. Hein.
Si on m'offre les Blu-ray, moi, je revends les DVD pour pas cher. Hein.
Oui.
Ah, ça peut être intéressant.
Voilà.
Si, si, les Blu-ray sont sortis en Amérique du Nord et en Europe le 15 novembre 2011, les 4 saisons.
Ouais, t'as les prix Amazon.
Soit en box complet, soit en saison individuelle. Et non, il n'y a que le box set en Europe.
D'accord. Et combien ça coûte?
Je sais pas, je suis sur la fiche Wikipédia, donc...
Blu-ray import allemand, 11 euros dans Peacekeeper.
Oui, dans Peacekeeper, c'est pas...
Non, ça va, ouais.
Non, mais je m'en fous, je l'ai dit. En plus, je l'ai, le DVD Peacekeeper.
Moi aussi, je l'ai Peacekeeper.
Bah, moi, non, en fait...
Ah. En fait, c'est pas cher celui-là.
Saison 2.
Attends, Farscape de Definitive Collection Series 1-4 Blu-ray Region 3. Yeah. 79,49 € sur Amazon.co.uk.
Ok.
Mais bon, eux, ils ont les saisons complètes à 17 livres en DVD, donc.
Région 3, c'est Région 3, c'est l'Australie, ça.
Je sais pas, mais bon, s'ils sont Region 3 en. Sur
Amazon. Ah, free
Free Free comme Free, il a tout compris. Hein,
ah, ok,
le concurrent de SFR.
Je pouvais dire gratuit hein, plutôt que de faire de la pub. Hein.
Oui, hein, dommage.
Ah, non, non, mais je suis. Et donc en import, il vaut 67,28 € sur Amazon.fr. Donc il vaut peut-être mieux l'acheter sur Amazon.fr en fait.
Il y a les sous-titres français.
En fait,
et donc pour votre info là.
67 euros, ils se sont trompés, non?
Hein?
67 livres ou 67 euros? Ils ont oublié de faire la compte.
67 € un Farscape en import. Attends, je vérifie que c'est bien le box complet et que c'est pas juste sa saison 1. Hein,
non, le livre, t'as dit qu'il.
Non, alors moi j'ai juste.
Non, il y a.
T'attends quoi pour filer le lien?
Il y a 32 disques, donc ça doit être bon, je pense.
Mmh. Ouais, donc quand vous aurez l'intégrale, est-ce que l'un d'entre vous pourra m'envoyer The Peacekeeper Wars?
Sinon, si vous préférez, la saison 1 toute seule en version 11 DVD, elle vaut 73,99 €.
Après, on peut toujours négocier le prix, hein. C'est vous qui voyez.
Il n'y a pas de sous-titres, en fait. Je me disais.
Oui, ça doit être de l'anglais pur. Hein. Mm. Ah, c'est de l'import anglais, donc oui, les anglais ne mettent rien d'autre. Hein. Ils ne mettent même pas leurs propres sous-titres. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur Amazon.fr pour acquérir l'intégrale des 4 saisons à moins de 70 € en import anglais. Si vous voulez, avec la VF, il faudra payer 70 € en moyenne par saison.
Nico, tu sors.
Ah bah non, comment je conclue l'émission si je sors? Parce que vous avez à peu près tout dit sur Farscape, à part que il faut absolument regarder. Et voilà, en démarrant par la saison 2.
Et si j'ai une question.
Oui.
Quel est votre personnage préféré?
Ah.
Bah, on sait que c'est Rigel pour Céline.
Tu vas y arriver, Rigel.
Oui, voilà, je fais les deux.
Si t'arrives pas, tu dis Domina.
Ouais, Domina Rigel.
C'est China pour Max.
Non, moi, j'ai même pas besoin de le dire. En plus, tout le monde le sait.
Non, non, c'est China. C'est celle qui est dans le grand journal. Hein. C'est ça. Max, il aime.
Oui.
Non, moi, j'hésite entre Crichton et Irene.
Non, mais Crichton, c'est plus possible. Hein. Depuis que tu l'as vu dans le Chuck et qu'il a pris 50 kilos, non.
Moi, j'hésite entre Crichton et Irene.
C'est-à-dire que le problème de Ben Browder, c'est qu'il a le même régime que Nathan Fillion ou que John Barrowman, et ça leur réussit pas. Hein.
Oh la vache, ils ont pris du poids.
Tant qu'ils montent pas au niveau de Richard Dean Anderson, moi je dis.
Attends, ils sont jeunes, eux. Mais quand ils arriveront à l'âge de Richard Dean Anderson, ça risque d'être violent.
Oui, parce que jusqu'à 50 ans, il était bien.
Oui.
Même jusqu'à la fin de Stargate, hein. Je pense qu'il avait passé 50 ans à la fin de Stargate.
Oui. Ouais.
C'est soudainement, quand tu l'as vu dans Stargate Universe, tu t'es fait « Ah !» Parce que même encore dans Atlantis, dans son apparition, ça allait. Il avait même une scène d'action où il devait nager et tout.
Moi aussi, j'ai une question.
Oui.
Nico, à quel moment du mini-pod tu t'es dit, bon, écoute, hein, on va faire du montage, tant pis.
Non, mais je me suis jamais posé la question. Je vais pas faire de montage, c'est bien comme ça, non?
Moi, je dirais surtout que Max n'a pas répondu à sa question.
Oui, Max, qui est ton personnage préféré?
Ah, oh, j'hésite.
Non, ça, c'est ma réponse.
Non, mais Delphine non plus, t'as pas répondu à ma question.
Si, je suis bonne moi, là.
Non, mais Céline, elle a dit entre John et Irene.
Oui, et moi j'ai répété 15 fois cette chienne-là.
Ah, j'ai cru que juste tu me reprenais sur la prononciation.
Ouais, j'hésite, ouais, à Irene, mais j'hésite à, bizarrement, j'aimais bien Jules et Shikozu.
Ah oui.
Genre, ouais, mal vieilli, elle est bon. Pas mal non plus.
Jules, j'avais du mal, mais Shikozu, ouais, je l'aimais bien. Enfin, jusqu'à à peu près la fin.
Ah, disons que voilà, j'aime bien les personnages qu'ils cherchent. Et puis, disons que Jules au début, elle est, c'est vrai qu'elle est un peu chiant. Et puis finalement, sur la fin de saison, je trouve que au fil des épisodes, elle s'améliore, quoi.
Oui, elle est moins bruyante.
C'est vrai. Oui, moi, c'est ça, c'est à la fin que je l'aime bien.
Elle devient intéressante quand les personnages se séparent.
Personne va dire Moya. Ok, bon bah je me dévoue, je dis Moya alors.
Oui, tu peux dire Moya.
Bah, un vaisseau qui accouche, c'est quand même quelque chose de rare, d'exceptionnel.
Oui. On peut dire aussi Harvey.
Ouais.
Ah oui.
Ouais.
J'aime bien.
Évidemment, je trouve bizarre que pourquoi personne n'a dit Katargo.
Ah, écoute, c'est pas mon personnage
bien,
préféré.
Mais c'est pas mon personnage préféré.
Moi je dirais que c'est comme Zahan. Ils sont sympas, mais à un moment donné.
Disons que Katargo, il a eu un fils super relou.
Ouais.
Oui. Bah, c'était un adolescent. Donc.
Et oui, les adolescents, même là dans l'espace, c'est des relous.
Ouais. Voilà. Et puis, mais bon, c'est là encore, hein, ça s'explique. Hein. Le gamin, il n'a pas eu une vie très très facile. Bon.
Et je pense que Nico aurait voté pour le décolleté de Grisa.
Bon, bah je pense qu'on peut conclure là. Hein. On part encore sur des hors-séries.
Non.
Bon. Par contre, pour parler d'Andromeda, comme on en parlait tout à l'heure.
Non. Ah ouais, non, mais ça, on fera un autre mini-pod sur Andromeda un jour.
Ah ok, oui.
Ah, sans moi.
Voilà. Donc et mon but là n'était que de faire une digression supplémentaire. Je vois que ça fonctionne.
Comme toujours. Allez, au revoir.
Bye bye.
Bye.
Et si vous voyez un vortex, ne rentrez pas dedans. Hein. Ça n'a pas réussi à John Crichton et ça réussit pas.
Ça peut donner des trucs super drôles, au contraire.
Je m'appelle John Crichton. Je suis astronaute. Il y a 300 j'ai été aspiré par un vortex. Propulsé dans un point reculé de l'univers à bord d'un vaisseau vivant avec son équipage de prisonniers en fuite. Mes amis. Je me suis fait des ennemis. Puissant, dangereux. Maintenant, tout ce qui m'importe, c'est rentrer chez moi. Sur cette bonne vieille terre. Regardez vers les cieux et partagez toutes les merveilles que j'ai faites.